Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Super Pouvoir pour tous. Je suis Gaëlle Lann et aujourd'hui on va parler d'hypnose et d'auto-hypnose et plus précisément comment choisir entre les deux et comment les pratiquer. Je vous ai proposé il n'y a pas longtemps de me poser vos questions auxquelles je répondrai en faisant des articles ou des vidéos, alors c'est parti! J'ai décidé d'en regrouper deux là qui étaient un peu voisines, qui sont combien de fois faut-il pratiquer l'hypnose pour que ce soit efficace? Et est-ce qu'il y a des bases à apprendre avant de se lancer dans la pratique de l'auto-hypnose? Donc des questions qui nous viennent de Pauline et de Blandine. Alors premièrement, vous pouvez lire ou relire mon deuxième article de ce blog, donc au tout début, qui s'intitule « Hypnose et auto-hypnose, qu'est-ce que c'est ?» qui vous donnera en fait quelques définitions théoriques. Et donc aujourd'hui, ici, on va parler pratique grâce aux questions judicieuses de nos deux lectrices. Pour répondre très simplement, eh bien, vous faites comme vous le sentez. Voilà, si vous avez d'autres questions, eh bien, à vos commentaires, et puis je vous dis à très bientôt.
C'était une blague.
Bon, je vais développer, mais tout ce que je dis ici, ça reste un point de vue, donc vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne des pistes et des guidelines pour vous orienter si vous débarquez, si vous êtes un petit peu perdu ou qu'il vous manque des éléments. Dans tous les cas, sortez de votre zone de confort, faites-vous confiance, écoutez votre rythme. Persévérez et agissez. Tirez des apprentissages de votre expérience et utilisez-les pour aller encore plus loin. Bon, rentrons dans le vif du sujet. J'ai un problème à régler. Est-ce que je fais de l'hypnose en cabinet ou est-ce que je choisis l'auto-hypnose? Il y a quelques semaines, je suivais une discussion sur un groupe Facebook de sport et de nutrition. Il y avait une personne qui demandait des conseils pour surmonter ses difficultés de grignotage qui sabotent son sport et donc sa perte de poids. Étant donné le contenu du message, je lui ai répondu que l'hypnose pourrait sans doute l'aider dans ce cas. Et cette personne m'a répondu: Merci, je viens d'acheter un livre d'auto-hypnose. Bon, à moins d'être super motivée et super engagée, je suis pas sûre qu'un livre d'auto-hypnose, ça l'aide beaucoup ici. Déjà, il faut le lire. Ensuite, il faut le pratiquer, sinon ça sert à rien. Et après, combien d'exercices est-ce qu'elle va devoir faire avant de réellement régler ce pourquoi elle a acheté le livre, sachant que en plus la majorité des gens lisent des livres pratiques et ne prennent pas le temps de les pratiquer. Donc soyez honnête et réaliste envers vous-même là-dessus. Clairement, si vous vous intéressez à l'hypnose pour une problématique précise, allez directement chez un praticien et faites 2-3 séances. Non seulement il y a des chances pour que cette problématique elle soit réglée beaucoup plus vite qu'avec un livre, mais en plus parce que vous aurez pris un rendez-vous chez un professionnel, et c'est très important, premièrement, vous prendrez le temps de le faire parce que vous serez engagé auprès de quelqu'un. Deuxièmement, vous expérimenterez l'hypnose concrètement et au service de votre objectif, vous irez droit au but. Vous apprendrez beaucoup plus vite et comprendrez bien mieux vos livres après. À la limite, même si vous souhaitez juste entre guillemets apprendre l'auto-hypnose sans objectif précis dans un premier temps, vous en trouverez plein après. C'est intéressant d'aller voir quelqu'un. Encore une fois, autant parce que ce sera vraiment personnalisé et que vous aurez vraiment pris ce rendez-vous et ce temps. Le praticien, il pourra répondre à vos questions et vos difficultés, donc là aussi, vous irez plus vite. Il y a 3 points importants que je voudrais que vous considériez pour vraiment réussir vos séances. Le premier, c'est que votre motivation personnelle est capitale. Si vous venez pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que il faut bien, ne vous attendez pas à ce que ça fonctionne comme ça. Mais si vous trouvez ça intéressant quand même, vous pouvez faire une séance pour travailler sur cette motivation en elle-même, sur l'envie, pour trouver des leviers de changement qui vous parlent à vous directement. Et ensuite, vous aborderez le truc que vous vouliez, si vous le voulez toujours et que c'est important pour vous. Deuxièmement, en hypnose, il n'y a ni règles ni généralités. Souvent sur Facebook, je vois des gens qui demandent quelle méthode pour ceci, quelle approche pour cela. Alors oui, il y a certains professionnels qui vont faire un arrêt de tabac, un groupe de 10 personnes en lisant un script. Pour certains, ça va marcher, mais pas pour d'autres. Est-ce que ça veut dire que l'hypnose ne marche pas sur eux? Ou qu'ils sont pas hypnotisables ou autre? Non. Un bon accompagnement, c'est pour moi un accompagnement individuel, personnalisé et adapté à la personne, c'est-à-dire à ses croyances, à ses valeurs, à son histoire et ses fonctionnements. C'est pour cette raison que les études sur l'hypnose, elles sont majoritairement faussées. On applique la même méthode à tout le monde et on compare les résultats. Mais comme chacun est différent, eh bien c'est pas comparable et l'étude, elle n'est tout simplement pas valable. Et troisièmement, c'est le nombre de séances. On me demande souvent combien de séances il va falloir pour corriger ça. Et comme en hypnose, il n'y a ni règles ni généralités, on peut pas savoir à l'avance. Comme c'est une thérapie brève et que là encore certains vendent des miracles en une séance, on se dit qu'une séance ça va tout régler. Alors si c'est pas le cas, eh ben on est déçu, on se dit que ça marche pas très bien et on persévère pas plus que ça et c'est super dommage. Thérapie brève, c'est pas thérapie instantanée. Et c'est en partie pour ça que moi maintenant je prends systématiquement deux rendez-vous. Et si la personne n'a finalement pas besoin du deuxième parce qu'une séance ça lui suffisait, eh bien elle l'annule. Mais peut-être qu'elle aura besoin de 3, 4, 5 séances sur un mois ou 6 ou 12 pour dépasser ses difficultés. Et c'est ok, c'est normal. C'est même parfois nécessaire d'ailleurs, il y a des gens, ils n'ont pas envie de changer tout d'un coup, mais en général, ceux-là, ils sont un peu moins concernés par cette idée. En tout cas, la très grande majorité du temps, un accompagnement suffit. Dans le sens où, normalement, après quelques séances, si la personne considère que c'est réglé, a priori, on n'a pas besoin de revenir dessus. Ensuite, on va trouver YouTube, les MP3, les livres d'hypnose. Sachant qu'on trouve tout et n'importe quoi sur YouTube, et personnellement, j'ai jamais eu recours à des enregistrements, mais à lire les commentaires, eh bien, il y a des gens à qui ça plaît beaucoup. Donc testez. Cherchez, écoutez, trouvez ce qui vous plaît et ce qui fonctionne pour vous. Faites-vous votre propre expérience. Tout dépend de ce que vous cherchez, de si la façon dont le travail est proposé y correspond à ce moment-là. Tel que c'est un peu du pif, parce que souvent vous savez pas de quelle école est la personne derrière l'enregistrement, et vous allez sans doute écouter une bande sans probablement avoir détricoté votre objectif avant, et c'est quand même un peu essentiel, mais encore une fois, il y a des gens pour qui ça a l'air de bien marcher. Alors après, sur le long terme, on sait pas trop. Donc si ça vous plaît, eh bien lancez-vous, vous verrez bien ce qu'il en ressort. Ça peut être une bonne entrée en matière si vous piochez à droite à gauche ce qui fonctionne pour vous encore une fois. Ça permet de se faire une idée aussi, de découvrir. C'est pour ça que j'ai mis des MP3 dans le pack auto-hypnose à télécharger, c'est pour vous aider au début. Ces MP3, ils n'ont aucun but de changement, on est d'accord. Ils sont là pour vous accompagner dans votre découverte, consciente de l'état hypnotique, pour faire un changement après. Maintenant, personne n'est à l'abri d'un réajustement sympathique spontané dans ces expériences. Et pour les techniques de changement dans les livres, ça demande de les avoir un peu comprises avant de les appliquer parce que dans l'idéal, vous n'allez pas interrompre votre séance pour reprendre votre lecture. Certaines techniques vous sembleront plus accessibles que d'autres, alors après, trouvez le juste milieu entre aisance et audace pour une pratique efficace. Maintenant, avant l'idéal, eh ben, faites-vous la main, rien ne vous empêche de vous y prendre à plusieurs reprises le temps de comprendre comment ça fonctionne. Vous êtes plus actif en appliquant une technique d'un livre, donc ça va potentiellement plus vous apprendre à vous débrouiller tout seul. Et l'auto-hypnose, c'est se débrouiller tout seul, c'est aller vers une pratique personnelle. Toutes ces découvertes de ces techniques et de vous-même vont vous amener à pratiquer l'auto-hypnose, c'est-à-dire l'hypnose en autonomie, et vous ferez bien ce que vous voulez avec ça. Maintenant, de mon côté, j'ai beau être formée professionnellement et connaître un peu toutes les techniques, en tout cas pas mal, ça m'empêche pas de préférer être accompagnée quand j'ai un truc un peu costaud ou chiant à régler. Au moins, ça évite de tomber dans ses propres pièges mentaux, et le mental est très doué pour tendre des pièges. Ça évite d'être limité par ses croyances, surtout qu'un praticien, il va vous aider à les voir, ses pièges et ses croyances. Alors que pour vous, c'était une très bonne et très légitime stratégie quelque part. Bref, même si techniquement, on peut faire la même chose accompagnée ou pas, peut-être que selon vos capacités qui se développent au fur et à mesure, vous allez devoir répéter certaines procédures au début pour leur donner le plus de chances d'être efficaces. Et là encore, vous verrez ce qui a bien ou moins bien marché et ce qui reste à faire pour franchir les prochaines étapes. Vous allez peut-être faire une séance avec quelqu'un, continuer en auto-hypnose et puis refaire une séance parce que là, vous bloquez, ah, et puis maintenant, vous en venez à parler d'autre chose, alors tiens, ça vous donne une idée, ça vous amène à faire un stage d'auto-hypnose et ainsi de suite. Il n'y a pas de schéma, vous faites le vôtre continuellement, à votre rythme. Pour répondre plus précisément à la question de Pauline, si je devais nommer des bases d'auto-hypnose, je dirais être plus conscient de soi, c'est comme ça que vous allez trouver des idées et des objectifs. Ensuite, on a l'accès volontaire à l'état hypnotique, par le guide à télécharger justement. Et puis la compréhension des fonctionnements, des suggestions et de la communication inconsciente. Là aussi, j'ai fait un article. Après, il y a plein d'autres choses évidemment, il y a des protocoles et puis simplement votre créativité. Mais avec ça, en tout cas, vous pouvez déjà vous amuser. Vous allez rencontrer des situations, des gens qui vont éveiller des trucs chez vous, des envies, des besoins, qui vont vous apprendre des choses, vous allez vous poser des questions, et vous développerez votre apprentissage de l'auto-hypnose en fonction de vos besoins, de votre curiosité et votre connaissance de vous-même, qui développera votre conscience et vous donnera accès à encore d'autres challenges hypnotiques ou pas, pour aller un peu plus à chaque fois vers votre liberté personnelle. Dans tous les cas, sortez de votre zone de confort, faites-vous confiance, écoutez votre rythme, persévérez et agissez, tirez des apprentissages de votre expérience et utilisez-les pour aller encore plus loin. J'ai créé une page spéciale débutant dans le menu du haut pour vous guider dans vos premiers pas. Si vous connaissez déjà le blog, il n'y a rien de nouveau, c'est juste un peu d'organisation pour les nouveaux arrivants. Merci donc à Blandine du blog Famille Connectée et à Pauline pour leurs questions. Si vous en avez aussi, eh bien n'hésitez qu'une seconde avant d'écrire votre commentaire sur cette page ou sur la page spéciale questions ou par mail comme vous voulez. En attendant de vous lire, eh bien bisous.